rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est Le Énervé la suite, et ce soir, destination Corée du Nord. Et oui, on est comme ça, il faut dire que ça donne envie. Il y a 10 jours, oui. Le régime de Kim Jong-un a parfaitement réussi son 6e essai nucléaire, ce qui inquiète une fois de plus la communauté internationale. Ce matin, nouvel épisode pour répondre au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a voté l'alourdissement des sanctions. Eh bien, la Corée du Nord a appelé à couler le Japon et à réduire les États-Unis en cendres dans le texte, pas moins. Du coup, avec Christophe Bourseiller, on s'est dit, mais la Corée du Nord pourrait-elle faire sauter la planète? On s'est inquiété, on était tellement troublés qu'on a décidé d'en parler avec 4 invités. Juliette Morillou, elle est face à moi, vous êtes journaliste, spécialiste de la Corée, co-auteur de La Corée du Nord en 100 questions aux éditions Thaïlandais, et vous parlez coréen, je le sais, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai cru qu'elle allait me dire en coréen.
Bah oui.
Et ça aurait donné quoi?
안녕하십니까.
Parfait. Voilà. Pierre Aski, journaliste, rue 80h, l'Obs, et président de Reporters sans frontières. Vous parlez coréen?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais bonsoir quand même.
Pierre Rigoulot, vous êtes historien et l'auteur de Corée du Nord, État voyou, chez Buchet-Sastel, un livre qui a fait date il y a 10 ans déjà. Vous étiez un précurseur de vous intéresser à ce pays. Bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Et puis à vos côtés, Val Noir, vous êtes artiste et vous présentez à l'étrange festival de Paris le film Libération Day, je le dis à la française.
Liberation Day.
Vous le dites à l'américaine, qui raconte un voyage en Corée du Nord avec le groupe
Laibar.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Le NRV, la suite, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et vous, Christophe Bourseiller, qu'est-ce que cela vous a...
Pour moi, ces invités sont un peu des psys pour justement nous permettre de surmonter cette crainte de voir la Corée faire sauter la planète. Il faut dire, Laurent, que le plus gros point faible, à mon avis, et au vôtre, j'en suis sûr, des régimes totalitaires, c'est quand même le ridicule. Parce que depuis des décennies, c'est vrai, la Corée du Nord fait rire le monde entier, tout comme Charlie Chaplin faisait rire les spectateurs dans Le Dictateur. Donnez-moi l'adresse du coiffeur de Kim Jong-un. Que penser de ces enfants qui défilent au pas de loi, de ces adultes claironnant d'une voix fausse, des slogans tellement bêtes qu'on dirait qu'ils ont été inventés par les bronzés ou les inconnus. Si la Corée du Nord n'existait pas, personne n'aurait osé l'inventer. On aurait dit « arrête, c'est trop, aucun régime ne peut être à ce point répressif et caricatural ». Oui, mais elle existe, la Corée du Nord, Laurent, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La curieuse monarchie communiste règne sur 25 millions d'habitants, avec la plus grosse armée du monde, 10 millions de soldats. Sur 25 millions, ça fait quand même beaucoup de soldats, et on recense enfin 120 000 prisonniers politiques. Ubu a trouvé son royaume. Mais voici que le dernier rejeton de la famille royale gesticule et surprend son monde. Alors que la Corée du Nord soit belliqueuse, bah écoutez, franchement, on s'en était déjà aperçu, mais voilà-t-il pas qu'elle multiplie les tests nucléaires, allant jusqu'à faire exploser une bombe H ultra-puissante 16 fois plus forte que la bombe d'Hiroshima en 1945. Alors dès lors, chacun s'interroge. La bombe H se trouve-t-elle entre les mains d'un fou dangereux, d'un Idi Amin Dada, d'un Hitler asiatique, ou bien Kim Jong-un joue-t-il un jeu plus nuancé qu'il n'y paraît, visant à accroître l'influence de son pays? Pierre Aski, l'escalade nucléaire nord-coréenne paraît assez mystérieuse. Comment expliquer les progrès fulgurants des Nord-Coréens dans la fabrication de l'arme atomique? En gros, ont-ils été aidés?
Alors d'abord, c'est un programme ancien, parce qu'il est, c'est pas Kim Jong-un qui a démarré le programme nucléaire. C'était déjà un problème d'ailleurs qui préoccupait la planète avec son père,
Kim Jong-il,
son grand-père, qui était juste avant. Et donc ça fait très longtemps. Sur les aides étrangères, il y a eu beaucoup d'informations à propos de la filière pakistanaise, qui est la plus connue, le docteur Khan, qui est un des plus grands proliférateurs du nucléaire de l'histoire de l'après-guerre. On retrouve sa trace au Moyen-Orient et pas mal en Corée. Là où ils ont fait les progrès les plus fulgurants ces derniers temps, c'est dans les missiles balistiques. Parce que, en gros, le vrai enjeu aujourd'hui de la crise avec les États-Unis, c'est pas tellement le fait que la Corée du Nord ait le nucléaire, ça les préoccupe effectivement par rapport aux pays de la région, mais c'est surtout qu'ils peuvent envoyer enfin, ils sont pas très loin de pouvoir envoyer ces charges nucléaires sur le sol américain. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais pour ça, il faut des missiles de longue portée, des missiles balistiques. Et il y a un an, les tests de missiles échouaient les uns après les autres et les Américains laissaient entendre qu'ils avaient un peu saboté le processus. Et là, tout d'un coup, il y a une série de tests réussis avec des portées de plus en plus longues, y compris un missile qui a survolé le Japon, ce qui a provoquer une panique au Japon.
Oui, bien sûr, hein.
Les gens ont été envoyés aux abris.
Le Japon est l'ennemi héréditaire des Coréens.
Non, mais surtout,
les Japonais ont été envoyés aux abris.
Aux abris.
Parce qu'ils ne savaient pas si le missile qui était en train de les survoler avait une charge nucléaire ou pas. Et puis c'était peut-être une manière de préparer la population à ce... Donc voilà, il y a eu des informations dont on ne peut pas vérifier l'exactitude qui disaient que l'Ukraine, une société ukrainienne avait aidé la Corée du Nord dans le programme de missiles. Je pense qu'il y a peut-être de la désinformation, vous savez, c'est le genre de domaine sur lequel les certitudes sont quand même faibles. Ce qui est certain, c'est que ils ont progressé dans la maîtrise de l'arme nucléaire et ils ont progressé dans la technologie des missiles balistiques. Et ça, c'est aussi le résultat d'un investissement massif, puisque c'est le premier poste budgétaire coréen.
Pierre Goulot, oui, je vous voyais acquiescer au fait que l'Ukraine aurait pu aider le...
Ça
le régime nord-coréen.
Non, je suis comme Pierre Aski. J'ai entendu parler de cette fuite ou de cette hypothèse là, mais rien n'est plus sûr, rien n'est moins sûr.
Rien n'est plus sûr.
Rien n'est moins sûr et par conséquent, il faut reprendre ce qu'a dit Pierre Aski, c'est-à-dire il y a depuis longtemps des recherches dans lesquelles en effet, Kader Khan, le Pakistanais, est intervenu. Technologie nucléaire contre technologie balistique, car les Nord-Coréens sont particulièrement avancés dans ce domaine balistique.
Ils ne sont pas isolés, les Nord-Coréens. Ils sont alliés, évidemment, aussi à la Chine. La première visite de Kim Jong-un sera pour la Russie.
La Chine n'aide pas le programme nucléaire nord-coréen.
Non, mais pour reprendre la position de la Chine, déjà, le programme nucléaire coréen, il s'est construit au lendemain de la guerre de Corée. C'est-à-dire que face à deux menaces nucléaires de la part des États-Unis pendant la guerre de Corée, Kim Il-sung, donc le fondateur de la dynastie, le fondateur de la Corée du Nord, a lancé son programme nucléaire. Il l'a lancé grâce à l'aide de la Chine dans un premier temps, dans l'aide de l'Union soviétique dans un deuxième temps et dans un troisième temps pour la technologie à l'uranium, avec les Pakistanais. En ce qui concerne les programmes balistiques, ils ont eu de l'aide soviétique, ils ont également énormément d'aide iranienne. Alors depuis des années, la communauté internationale se met la tête dans le sable et dit ils peuvent pas. Ils peuvent, parce que c'est la survie du régime qui est en cause là, c'est-à-dire qu'ils ont mis tout leur argent là-dedans, parce que pour eux, l'arme nucléaire, ils ne veulent pas terminer comme Kadhafi, comme Saddam Hussein. L'arme nucléaire est la seule façon qu'ils ont finalement de pouvoir dialoguer avec les autres. C'est un peu David et Goliath, dialoguer d'égal à égal. Et oui, ils sont probablement capable d'atteindre les États-Unis, mais s'ils voulaient, la question est, est-ce qu'ils le veulent? Et ils le veulent pas. S'ils voulaient faire des dégâts, ils pourraient atteindre Séoul. C'est à moins de 60 kilomètres de la frontière et on n'a pas besoin ni d'armes nucléaires, ni de missiles balistiques. Il suffit de lance-roquettes conventionnelles.
C'est très important ce que vient de dire Juliette Morillo, parce que en effet, l'entreprise paraît tout à fait rationnelle. Il s'agit de se constituer une force de dissuasion nucléaire, pas de problème. Il y a cette logique-là, et en face, la logique américaine qui est le refus de la prolifération nucléaire. Ouais. Mais on n'est pas tout à fait dans la logique complète, puisque, en fait, la dissuasion ou la force de dissuasion, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà dans la mesure où ils peuvent très bien frapper sans moyens technologiques très avancés que Séoul, qui se trouve à une soixantaine de kilomètres, une cinquantaine de kilomètres de la zone démilitarisée. Donc, il faut s'interroger sur la focalisation de Kim Jong-un sur l'armement nucléaire. Qu'est-ce qu'il cherche à travers cet armement nucléaire? Il y a une fascination, il y a l'entrée dans ce club très restreint des très grandes puissances qui sont dotées de l'arme nucléaire. Et puis, il y a peut-être autre chose. Il y a le mot totalitaire qui a été prononcé tout à l'heure. Et je crois qu'il est important dans un tel état de mobiliser, de réunir la population contre un environnement qu'on dit agressif, qu'on dit inquiétant, c'est le fameux caractère obsidional de tous les pays totalitaires. Et là, il s'agit non seulement donc de faire face à l'extérieur, mais aussi de mobiliser l'intérieur.
Moi, j'ai même lu que le peuple nord-coréen, finalement, évidemment, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de sondage, il n'y a rien, mais finalement, était plutôt fier de cette dérive patriotique, notamment ce missile lancé vers le Japon. C'est aussi une revanche, quelque part, sur les Japonais qui ont occupé la Corée il y a quelques dizaines d'années, ou un peu plus. Donc, il y a peut-être cette dimension-là. Val-Noir, vous étiez, vous, là, en Corée, quand il y a eu des tests nucléaires?
Oui, moi je suis rentré il y a un peu plus d'une semaine, et donc j'étais sur place pendant le tir de missiles balistiques qui a survolé le Japon, et également pendant l'essai nucléaire. Donc j'étais dans mon hôtel et on a ressenti une secousse de tremblement de terre. Et environ une heure après, parce qu'on avait quand même une connexion internet, donc on a eu les news occidentales qui effectivement confirmaient ça. Et une demi-heure après, on a appris qu'il y avait une conférence de presse et qu'également il y allait y avoir une déclaration à la télé nord-coréenne. Donc on est descendu dans le lobby de l'hôtel. Et effectivement, donc on a eu droit aux news nord-coréennes traditionnelles. Donc on était avec nos interprètes, notamment avec nos guides. Et quand la présentatrice a annoncé le succès de l'essai nucléaire, tout le monde s'est mis à applaudir. Y compris nos guides, alors que nous, on était quand même un peu en train de se faire dessus quand même. Donc bon, là, on était dans une atmosphère qui était très très étrange. Hein.
Pierre Aski.
Il y a un élément que je pense qu'il faut qu'on rappelle, parce que autrement on comprend pas le contexte actuel. C'est qu'il n'y a jamais eu de traité de paix à la fin de la guerre de Corée. On parle de 1953. C'est-à-dire que cette guerre, il y a eu un cessez-le-feu, les hostilités se sont arrêtées, mais on est encore dans un état de guerre. Et pour les Coréens du Nord, la guerre ne s'est jamais arrêtée, puisque il n'y a pas de traité de paix avec les belligérants, que ce soit la Corée du Sud ou les États-Unis. Et depuis 50 ans, on continue à vivre dans cette idée que la guerre peut recommencer d'un jour à l'autre. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on vit un demi-siècle avec cette idée que la guerre peut reprendre d'une minute à l'autre.
Oui, c'est tout à fait exact. On se sent, quand on se balade à Pyongyang, ce qui m'arrive, on sent cette menace américaine permanente. Et ce qu'il faut savoir, c'est rappeler ce que...
Mais comment on la sent?
Réel ou supposé?
Déjà sur les murs des écoles...
Mais c'est où ils sentent la menace nord-coréenne permanente?
Mais ça ne veut pas dire qu'ils sentent la menace américaine ne change rien à ce qu'on sent à Séoul ou non. Et d'ailleurs, à Séoul, on est plutôt cool face à la menace nord-coréenne. C'est assez surprenant. Quand on se balade dans Séoul, les Nord-Coréens, ils s'en fichent. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même dire à un moment ou un autre ce que veulent les Nord-Coréens derrière tout ça. Ils veulent leur survie et ils veulent, ainsi que vous voulez le dire, venez de le dire, ce qu'ils veulent paradoxalement, c'est un peu si Wispakem par Agapelum, si tu veux la paix, prépare la guerre, ils veulent un traité de paix sur la péninsule. Alors je vous accorde que ce n'est pas le meilleur moyen, mais c'est quand même ce qui est derrière ce que nous voyons comme des provocations. Pour eux, non.
Et pérenniser un régime totalitaire.
Et pérenniser un régime, oui.
23h30 sur France Inter. Souvenez-vous, en 1979, on était tous en noir et blanc. Moi, oui, en tout cas. Au son du ska de Madness, My Girl, je m'en doutais. Un extrait de leur premier album, One Step Beyond. My girl's mad at me. I didn't wanna see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in and watch TV on my own every now and then. My girl's mad at me. Been on the telephone for an hour, we hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. We'll be right back.
rendez-vous.
Laurent Goumard. Sur France Inter.
Mais quel est ce son étrange, cet hymne pour parler de la Corée du Nord ce soir.
Ce groupe formidable qu'est Laibar. Je peux vous dire un mot de Laibar?
Allez-y. Pourquoi, d'abord, pourquoi on en parle?
Pourquoi, alors, on, parle pourquoi de on en parle? Parce que Laibar a réussi une performance. Alors, Laibar est un groupe underground, slovène, qui existe depuis les années 80, qui est un groupe qui pratique une sorte d'art totalitaire, de rock totalitaire. C'est-à-dire qu'il reprend les codes du totalitarisme pour s'en moquer. Et là, d'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre, c'était un morceau, qui est un tube débile, qui s'appelle Life is Life. Life is Life. Repris en totalitaire par Laibar. Il s'est trouvé, d'ailleurs Val Noir a joué un rôle là-dedans, il s'est trouvé que Laibar a eu l'occasion d'aller jouer à Pyongyang. Ils ont donné un concert inouï et ça s'est traduit par un film.
Qui est présenté actuellement
à l'étrange festival à Paris, au Forum des Images, dans le Forum des Halles. Et ce film s'appelle Liberation Day. C'est un film mi-slovène, mi-norvégien, dans lequel on voit Val Noir. Et c'est un film ahurissant parce qu'on a vraiment l'impression que Laibar a réussi à se foutre de la gueule, il faut bien le dire, d'une dictature qui, quelque part, ne s'en rend pas compte parce qu'il retrouve des codes esthétiques qui sont assez proches d'eux-mêmes. Est-ce que je me trompe, Val Noir ?
En fait, c'est une des raisons pour lesquelles Laibar a réussi à aller jouer là-bas plus que n'importe quel groupe de rock ou de métal, quelconque musique alternative, c'est qu'ils ont un vocabulaire visuel, un vocabulaire artistique qui a des points de contact avec l'univers nord-coréen, à savoir, c'est-à-dire il y a de la cravate et du tambour, il y a de la trompette et ça marche au pas. Tout ça, c'est des choses que les Coréens ont compris, qui leur a semblé familier, sauf que eux, évidemment, ont essentiellement perçu ça avec beaucoup de premier degré, alors que Laibar est un groupe qui justement est beaucoup plus nuancé dans son approche.
C'est clair.
Voilà.
C'est pas si clair que ça.
Ah bah si, c'est vraiment tout à fait admis. Et tout
c'est
monde
admis,
le sait.
Mais c'est pas si clair que ça quand non, on
c'est
le voit.
C'est l'intérêt de Laibar. Oui,
il joue sur l'ambiguïté depuis les années 80, mais c'est un groupe qui a pris son envol dans un monde totalitaire qui était le côté est de l'Europe. Hein, c'est un groupe qui est né en Yougoslavie, qui n'était pas régime le plus dictatorial, mais qui était quand même un régime dictatorial de l'Est.
Et Jenny, le leader du groupe, a dit dans une interview, on ne va pas en Corée du Nord pour provoquer les Coréens, on y va pour provoquer le reste du monde. Comment vous comprenez cela, tout ce monde? Juliette Morillo, je la vois baisser les yeux, c'est pour ça que je l'interroge tout de suite.
Alors, provoquer le reste du monde, oui, la Corée du Nord a un côté finalement zoo, tout le monde a envie d'aller là-bas. Maintenant, c'est un petit peu comme, je ne sais pas, escalader la tour du Burj Khalifa aux Émirats. Il y a un côté extraordinaire, tout le monde veut aller là-bas, tout le monde veut rapporter quelque chose d'extraordinaire, de décalé. Je comprends que c'est ce qu'a fait Laibar, mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour les Nord-Coréens, quelle que soit l'ironie qu'on a là, ce qui est génial, c'est que ça apporte la différence sur place. Ça apporte autre chose. Et moi, j'ai demandé aux Nord-Coréens, parce que de temps en temps, je leur demande, là-bas, je parle coréen, je leur demande, mais quand vous me voyez, là, je ne suis pas habillée comme vous, je parle différemment, vous savez ce que je représente. Eux, ils partent du principe que ça apporte la différence chez eux. Et je pense que c'est par la différence que va passer une ouverture. Donc pour moi, c'est positif, quelle que soit l'attitude qu'on a quand on va là-bas. Ceci dit, il ne faut pas jouer avec le régime. Je vous rappelle que vous avez un jeune étudiant, il y a un étudiant américain qui, il y a 2 ans, y est allé un petit peu en provoque et a volé une affiche et qui est revenu malade et qui est mort aux États-Unis. Donc il ne faut pas plaisanter avec ce genre de provocation.
Quel est le niveau de vie aujourd'hui des habitants, à part ceux qui sont des soldats, puisque vous dites qu'il y en a combien?
Je ne sais
plus. Plus de 10 millions.
Ça c'est à améliorer. Oui.
Quel est le niveau de vie aujourd'hui?
Alors, il faut
10 millions
quitter,
de soldats.
Pierre Rigoulot.
Ce qu'il faut, c'est quitter l'image d'une Corée du Nord affamée avec des gens exsangues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corée du Nord s'est rétablie économiquement. Une banque sud-coréenne, donc c'est sud-coréen, donc ils sont plutôt un petit peu secs, ont montré que l'an dernier, il y avait une croissance de plus de 3,5 en Corée du Nord, ce qui est exceptionnel. Les gens ont de quoi manger, les magasins sont bien achalandés. Alors, on n'est pas à Shanghai, Shanghai, on n'est pas à Pékin, mais la vie a changé et c'est une des raisons pour lesquelles les gens apprécient le dirigeant. C'est parce qu'ils ont vu au quotidien leur vie changer et pas que dans la capitale nord-coréenne, les campagnes.
Vous êtes Pierre Rigoulot ?
Non, pas tout à fait. Je veux dire qu'il ne faut pas oublier que la Corée du Nord est divisé, enfin les Nord-Coréens sont divisés en trois catégories. Vous avez les gens hostiles au régime, vous avez les neutres, je dirais, et puis il y a les gens loyaux. Et si vous êtes loyal, vous avez le droit d'habiter à Pyongyang. Et donc, ne vous étonnez pas non plus si on applaudit quand la Corée du Nord fait exploser une bombe nucléaire. Vous avez des gens qui sont favorables au régime, qui applaudissent. De toute façon, ils ont intérêt à applaudir. Je vous rappelle les histoires que racontait Solzhenitsyn après les discours de Staline. Personne n'osait s'arrêter d'applaudir et observait donc du coin de l'œil son voisin. Il y a quand même une grosse différence. Et contrairement à ce que dit Juliette, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même de gros problèmes qui subsistent dans les campagnes et les petites villes. Et j'ai lu, et vous aussi certainement, tous les appels à l'aide alimentaire ces derniers temps, en particulier de la FAO, parce que dans ces campagnes, dans ces petites villes, la disette. Je ne dis pas la famine, ça c'est terminé en effet, et je ne nie pas qu'il y ait des changements économiques, y compris à Pyongyang.
Une forme mais de libéralisation de l'économie.
C'est beaucoup plus compliqué que ça et on peut en parler. Là, je pense qu'on sera beaucoup plus.
C'est facile quand on n'y est pas allé d'en parler.
On sera beaucoup plus d'accord. Il y a des gens qui. Il y a une économie souterraine qui se développe. Pas que souterraine, puisqu'il y a quelques réformes économiques qui ont été prises. Mais il y a une économie souterraine qui se développe et dont profite d'une certaine façon le régime qui ne parvient pas à la contrôler complètement.
Mais non, ça c'était il y a 10 ans. Ça c'était il y a 10 ans, c'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est créé justement, excusez-moi, je vais le dire très rapidement, au lendemain de la grande famine. La population coréenne était obligée, c'était dans les années 2000, était obligée d'aller chercher de la nourriture, notamment en Chine, parce qu'il y avait réellement une famine. Ils en ont rapporté, finalement, parce que le gouvernement en effet autorisait cette espèce d'économie souterraine, il en est résulté une nouvelle classe dans la société qu'on appelle les tonju, qui est différente des trois classes dont parlait Pierre Rigoulot actuellement.
Non,
et ça sont des nouveaux, sont des catégories. Mais oui, mais maintenant on l'intègre dedans. Et vous avez maintenant cette nouvelle classe entre guillemets d'entrepreneurs, cette nouvelle classe d'entrepreneurs qui transforme la société coréenne et qui est favorisée par le nouveau gouvernement parce que tout en gardant, en serrant la vis bien évidemment sur les libertés, ils essayent justement d'apporter une sorte. Ils essayent d'apporter autre chose et de modifier l'économie. Tout simplement l'idée par exemple de travailler plus pour gagner plus est en train de rentrer dans les habitudes nord-coréennes. Un chauffeur de taxi, une fois qu'il a payé ses redevances à l'État, peut faire autant de courses qu'il veut pour mettre cet argent dans sa poche. Ça, c'est quand même nouveau par rapport à ce qui était il y a encore quelques années.
Valnoir, vous, quel est votre sentiment puisque vous en revenez de la Corée du Nord?
Alors moi, mon sentiment, alors en ayant été trois fois, honnêtement, j'ai pas vraiment d'expertise à apporter à la question, mais moi, ce que j'ai vu, c'est les campagnes, c'est on continue à avoir un pays du tiers-monde avec des gens qui travaillent à la main, à la pioche, avec des pelles, sans tracteur. Et moi, j'ai vraiment pas observé, de ma petite expérience, j'ai pas observé la moindre évolution là-dedans. Et moi, j'ai l'impression de voir un pays qui, dans les campagnes en tout cas, qui continue à vivre avec des moyens du début du XXe siècle, voire du XIXe siècle, avec un camion de temps en temps, un tracteur de temps en temps, et sinon des gens qui se pètent le dos dans les rizières à bosser à la main, quoi.
Pierre-Aski ?
Dans les années 2000, les Chinois ont essayé d'attirer Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, vers des réformes à la chinoise, donc une sorte de capitalisme sous contrôle du parti, tel qu'il a permis à la Chine de décoller et d'élever son niveau de vie. Les Nord-Coréens ont toujours résisté à ça. Ils ont fait des réformes ces dernières années et on a vu cette amélioration. Moi, j'étais en Corée du Nord en 2001. Il n'y avait pas une voiture dans les rues de Pyongyang. Aujourd'hui, il y en a. Il y a des téléphones portables. confortable. Il y a une nomenclatura qui peut aujourd'hui bénéficier d'un certain niveau de vie. Le décalage avec la campagne est absolument
énorme,
colossal.
Manifestement.
Et ça, c'est une des grandes faiblesses de ce système. Mais on est très très loin. Vous parliez de grosses réformes. On est très très loin d'une bascule à la chinoise dans un réformisme économique.
On est comme dans la Chine des années 82. On est en train d'implémenter ces réformes. Je vous donne
Ça s'en est loin. La Chine, dans les années 80, il y a eu l'ouverture d'un secteur privé en Chine.
Oui, mais là, c'est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire, vous avez des sociétés, par exemple, quand on construit des immeubles, qui sont construites avec des petites sociétés qui travaillent. On peut embaucher quelqu'un, on peut embaucher quelqu'un d'autre. Mais c'est en train, ce qui est étonnant dans cette société nord-coréenne.
Et là, vous n'êtes pas en train de nous faire la propagande pour la Corée
du
Nord ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis en train de... quand on parle de la Corée du Nord, il faut quand même y être allé, il faut parler la langue, l'avoir étudié. Moi, j'ai commencé le coréen en 78, donc ça date pas d'hier quand même, ma connaissance
du pays. Oui,
on
peut parler le coréen et être pro-régime.
Non, je suis pas pro-régime du tout. Je vous dis simplement qu'il y a des réformes qui sont en train de se créer. Elles changent. Pour l'instant, l'opinion que peut avoir la population du régime, parce qu'au quotidien, ils voient leur vie changer. Alors, ça va peut-être pas durer très longtemps, cet état de grâce. Ça, je vous l'accorde. Mais pour l'instant, ils sont passés d'un certain dénuement à un certain confort tout relatif de vie qui fait qu'ils sont plutôt derrière leurs dirigeants. Combien de temps ça va durer, ça, j'en sais rien.
Eh bien, nous, on va partir du côté de leurs ennemis. Aux États-Unis, c'est la révélation R&B de la rentrée. Il faut avouer qu'on n'avait pas entendu une voix pareille depuis Amy Winehouse, Jesse Reyes, Shutter Island.
Goodbyes are getting old. Next time you can go ahead and go. I'm tired of begging you to love me. Goodness gracious, you're amazing. According to you, I'm a lucky lady. Wait. So why'd you lie to me? Huh? Why you cry to sleep? Goodness gracious, I'm replaceable. Yep. You say that I'm too crazy. Yep. I guess you were right. Yep. I guess you were right. My straight jacket's custom made, though. I can't hear you. I'm tired of begging you to love me. You're expecting me to say, loco, please, please stay. I'm tired of begging you to love me.
Arguments, of course.
Goodness gracious, you're amazing. According to you, I'm a lucky lady. So why do I cry to sleep?
Why?
Why'd you lie to me? Goodness gracious, I'm replaceable. You say that I'm too crazy. I guess you were right. I guess you were right. I tried everything to say, but so why do I cry to sleep every time you try to leave? Goodness gracious, this relationship is full of so much hatred. I guess you were right. I guess you were right.
Rendezvous.
풍린 산 뒤 손 김정훈 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 감사한 뒤로
Sur France Inter.
김정훈 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 김정훈
J'aime beaucoup Tchaïkovski. J'aime beaucoup ça. Mais quelle est la puissance de tir, au-delà bien sûr de la parodie, quelle est la puissance de tir de Kim Jong-un ? On en parle ce soir avec nos invités, historiens, journalistes et artistes, Juliette Morillo, Pierre Aski, Pierre Rigoulot et Val Noir, parce que il y a quand même un problème aujourd'hui, au-delà de ce dont on a pu parler, de la situation économique, nucléaire et tout, c'est qu'il y a deux personnalités aussi qui se font face. D'un côté, donc, Kim Jong-un et de l'autre côté, Donald Trump. Les relations, on le sait, entre les États-Unis et la Corée sont dans une impasse depuis 2008. Et selon un chercheur américain, la période est délicate car, je le cite, Pyongyang est en confiance et a humilié Donald Trump plusieurs fois. Comment vous regardez la situation? Juliette Morillo, vous dégainez?
Moi, j'aurais simplement tendance à dire que alors, on va m'accuser d'être pro-nord-coréenne. Je dirais simplement que les dirigeants nord-coréens ne sont pas fous. Ils sont rationnels et c'est probablement cette rationalité, je précise, qui fait le danger qu'ils représentent. Et par rapport, ce qui est assez surprenant, c'est que les choses sont un petit peu inversées cette fois-ci. C'est que là, on a une Corée du Nord qui poursuit inéluctablement, quelles que soient les sanctions, les menaces, son programme nucléaire et balistique. Et vous avez de l'autre côté un président américain qui, lui, a tendance à gouverner par tweet et a une politique. Il a voulu rompre avec la passion stratégique de Barack Obama. Il va au front, c'est un petit peu en zigzag, il n'arrive pas à lire. Et paradoxalement, en plus, cette attitude-là, ça renforce Kim Jong-un dans son pays.
Il est assez prudent, me semble-t-il, Donald Trump, au fond, par-delà les tweets. C'est quelqu'un, il protège ses alliés.
Il a répondu
à l'escalade verbale de Kim Jong-un, qui était absolument hallucinante, par une escalade verbale qui était peut-être aussi minable. Mais en même temps, il n'a pas agi de façon inconsidérée. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de, au fond, les Nord-Coréens bâtissent une stratégie de dissuasion et qui, et finalement, tous les autres pays du monde sont en train d'essayer de se redisposer par rapport à ça.
Sur Donald Trump,
il y a quelques semaines, moi, j'étais plutôt inquiet parce que j'avais l'impression que Donald Trump était l'électron libre de cette équation et que tout était possible. Et lorsqu'il a fait cette conférence de presse sans prévenir ses généraux ou son secrétaire d'État pour dire « je vais déclencher le feu et la fureur
voilà, »,
Mais il y a eu la suite. Donc les Coréens ont répondu. Et là, il y a eu un moment, je pense, un peu délicat. Le bon côté des États-Unis, c'est que le président ne décide pas tout seul et que ses généraux, qui ont une bonne connaissance de la réalité du terrain, ont bloqué tout ça et qu'aujourd'hui le processus est plutôt sous contrôle.
Mais Donald Trump.
Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de bonne solution pour les Américains parce qu'ils ne veulent pas reconnaître une Corée du Nord nucléarisée. Et ils n'ont pas aujourd'hui de carte diplomatique possible avec la Corée du Nord.
Pierre Goulot,
si l'option militaire est exclue, qu'est-ce qui reste ?
D'abord, ce qu'il a dit aussi, et surtout, il l'a même répété, c'est que toutes les options étaient sur la table. Alors, on s'est précipité sur l'option la plus terrifiante, c'est-à-dire, en effet, des échanges de missiles, mais il y avait aussi l'idée qu'il pouvait très bien rencontrer dans une relation bilatérale, le jeune Kim Jong-un. Donc, il n'y a pas que cette option militaire qui était en cause.
Mais alors, où va la Corée, alors?
Il me semble que du côté de Donald Trump, il y a quelque chose qui détermine pour le moment ses actions, y compris les incertitudes dans lesquelles nous sommes, c'est son désir d'un partenariat avec la Chine. Il compte sur la Chine pour faire pression sur la Corée du Nord. À mon avis, il se trompe.
Et c'est une illusion totale.
Je suis d'accord. À mon avis, les Chinois n'iront pas jusqu'à tordre le bras complètement de leur petit allié un peu trop remuant, parce qu'ils n'ont aucune envie, évidemment, de voir une péninsule coréenne contrôlée, américanisée, etc. Il faut qu'ils trouvent autre chose, et peut-être le trouvera-t-il du côté, en effet, de ce traité de paix dont nous parlions tout à l'heure, et du côté d'une relation, alors là, sans les Chinois, c'est extrêmement grave, mais avec, effectivement, les Nord-Coréens en bilatéral.
Le risque, parce que vous avez deux crises parallèles, l'une qui est effectivement la crise coréenne, l'autre qui est le jeu que se jouent les deux grandes puissances du XXIe siècle, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, oui. pour le contrôle de l'Asie. Les États-Unis sont les maîtres de l'Asie, le protecteur et l'arbitre de l'Asie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Chinois disent « ça suffit, oui. c'est notre tour, on va retrouver ce rôle ». Hégémonique, gentil, que nous avions jusqu'à la rencontre avec les Occidentaux.
Oui, et d'ailleurs,
et cette partie-là, elle est plus complexe que la partie nord-coréenne. Oui. Le risque, c'est que on ne trouve pas de solution à la crise nucléaire nord-coréenne et qu'on ait une sorte de dissuasion respective, que le Japon va se militariser plus qu'il ne le fait, et qu'on va se retrouver avec un équilibre de la terreur qui... Et la situation qu'on a entre l'Inde et le Pakistan,
fond, deux
pays nucléaires qui oui. aujourd'hui se neutralisent par cette...
Mais alors, Pierre Aski, voilà. si je vous écoute bien, au fond, Kim Jong-un, il joue très habilement, parce qu'au fond, il a l'air un peu ridicule comme ça, mais en réalité, il pérennise son régime.
Il joue la survie de son régime, il est en train de réussir ce coup-là.
Depuis pas mal de temps, finalement, ce qui est un petit peu, à nouveau, pas très politiquement correct, mais il faut bien voir que depuis des années, si la Corée du Nord se maintient au pouvoir, c'est qu'elle tire habilement les ficelles, finalement, c'est un petit peu elle qui mène le jeu, parce que derrière tout ça, vous venez de le dire, Pierre Aski vient de le dire, ça se joue entre une sorte d'hégémonie en Extrême-Orient, entre la puissance chinoise et la puissance américaine. Et finalement, une Corée du Nord bien diabolisée, comme on l'a toujours montré. L'ennui, c'est qu'en ce moment, elle fait un peu trop d'essais nucléaires et d'essais de missiles balistiques. Donc ça, c'est quand même embarrassant. Mais finalement, bien diabolisée, ça arrange tout le monde, parce que vous avez quand même 30 000 soldats américains qui sont basés en Corée du Sud, vous en avez 50 000 à Okinawa, vous en avez à Guam, vous en avez aux Philippines. Si, admettons que tout ça, ça se tasse et que la Corée du Nord, que les États-Unis doivent partir, vous avez une Corée réunifiée, admettons, scénario, mais il faudrait bien qu'ils partent. Ça veut dire laisser finalement... laisser le champ libre à une Chine qui devient envahissante finalement.
C'est là qu'il y a une contradiction avec les Chinois, parce que les Chinois ont envie que ça se calme, parce qu'ils ne pourront pas demander le départ des Américains si...
Mais ça arrange tout le monde, cette Corée du Nord, ça arrange les Chinois d'avoir un état tampon et ça arrange les Américains pour rester par là.
Une dernière question peut-être à l'artiste qui est parmi nous ce soir, Val Noir. Sur le plan politique, on vient d'en parler, sur le plan économique, on en a parlé tout à l'heure, et sur le plan culturel, qu'est-ce que vous avez noté, vous, quand vous avez accompagné ce groupe en Corée du Nord?
Bah moi, j'ai participé à 3 différents projets d'échange culturel en l'espace de 4 ans là-bas, et j'ai noté des différences, qui étaient... En fait, nous, on est passé par... Nous, à chaque fois que je suis parti là-bas, je suis parti avec Morten Trovik, qui est l'artiste norvégien qui est à la tête de tous ces projets. On travaille avec un comité qui est le comité pour les relations culturelles internationales de la République démocratique de Corée.
Démocratique et populaire.
Nous, ce qu'on a constaté, c'est que il y a eu des périodes d'ouverture importantes, notamment le concert de Leibar qui a été un petit peu l'apogée des projets qu'on a
menés là-bas,
qui ont eu lieu là-bas. Et le dernier projet, donc pour lequel j'étais là-bas la semaine dernière, c'est un projet un symposium d'art visuel et de coopération avec des artistes, des peintres, des artistes visuels nord-coréens et des artistes occidentaux. C'est transformé en véritable catastrophe, parce que le comité, notamment à cause du contexte, s'est retrouvé à tirer à boulet rouge sur le projet, alors qu'il était là pour nous aider, quoi.
Le mot de la fin, peut-être? Christophe Boursier, très rapidement.
J'ai trouvé une phrase assez curieuse de Kim Jong-un. Que notre pays socialiste soit parfumé de l'odeur des fruits de mer.
C'est parfait, c'est surréaliste. Merci à tous les 4, merci Pierre Aski, merci Juliette Morillo. Je rappelle que le livre « La Corée du Nord en 100 questions » est disponible chez Taliandier. Pierre Rigoulot, je signale que votre livre paru il y a 10 ans, « Corée du Nord est à voyou » est toujours disponible chez Buchet-Chastel, c'est pas facile à dire. Et Val Noir, l'étrange festival se poursuit au Forum des Images jusqu'au 17 septembre. On peut vous voir dans le film « Libération Day ». Alors eux, ils seront nos invités en live mercredi prochain, en prendre l'avance dans le NRV pour leur nouvel album, toujours aussi boisé et plein d'invités, Valparaiso en marée haute avec Dominica.
Sur la digue, que faire de sa colère? Que faire de sa fatigue? Fable validée sous serment, marée haute. Tu y croyais comme l'enfant peut croire. À qui la faute? Alors va pour la partager, mais en être accablé à d'autres. très haute. Traîtrise des roses marée haute, chemise noire délavée. Quelle idée aussi de lutter quand le vent va d'un seul côté. Regard perdu sur la digue, les récifs donnent sans compter. Naufrage, naufrage, ton âge t'y a préparé. Naufrage, combien pour t'y pousser. Traîtrise des roses marée haute, commençait déjà de trembler. Largué, mais c'était pas ta faute. Lesté de plomb qui peut flotter. Marée haute. Tendu sur la digue et main à paume retournée.
Mais que s'est-il vraiment passé pendant deux heures dans ce nouveau rendez-vous?
Depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les recettes n'avaient quasiment pas changé.
On rit beaucoup de l'Holocauste en Israël aussi.
Des horreurs, oui. Je suis naturellement attirée par les choses...
On part pour la Corée du Nord !
On est très très loin d'une bascule à la chinoise économique.
On est comme dans la Chine des années 82.
Parfois, comme le barde, il faut nous dire de nous taire.
Des révolutionnaires de la dernière heure, enfin une bande d'énervés...
C'est nous les énervés. Le énervé, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci Christophe Bourseiller.
Merci à vous.
On va se retrouver lundi. Vous savez qu'on a déjeuné demain, hein, vendredi.
Oui, on déjeune
dans
demain
mon quartier.
Et lundi, on parle techno.
On se donne tous rendez-vous sur Facebook et Twitter avec le hashtag énervéfi. Ce soir, réalisation Jérôme Boulet, Jules Medeviel, préparation Virginie Rouzy, Corinne Valente, Benoît Lagan. Lundi, 22h minuit, on sera là avec ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire cette musique? J'aimerais bien savoir si. Allez, on va danser toute la nuit, même si je te connais pas, je t'embrasse dans la bouche.
La techno, mais est-ce que ça existe encore? Ce sera le débat. Judiciaire et sensible avec Philippe Jaénada et l'avocat Henri Leclerc en live Marietta. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. À lundi.
Rendez-vous.
Il est exactement minuit sur France Inter. Tout de suite, le journal avec vous, Elodie Forêt.